Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bonjour et bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors au menu aujourd'hui, on va démarrer comme tous les jours par une question de notre vie quotidienne. Celle d'aujourd'hui, la voici, c'est quoi un bon patron ?
Eh oui, on a toujours une petite idée sur la question. Un bon patron, est-ce forcément un stratège ? Quelqu'un de très organisé et bon communicant ? Bref, on va tout revoir ensemble. Quelles sont les qualités essentielles qu'il faut avoir pour être un bon manager? Pour en parler, nous recevrons Charlie Clark, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers.
Et puis Julia, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour. Ce matin, on va parler d'esthétique avec le docteur Oren Marco, notre docteur beauty. Vous le connaissez, il est chroniqueur dans notre émission, mais il est surtout chirurgien plasticien et esthétique à Paris. Et donc aujourd'hui, il va tout nous dire sur les chirurgies mammaires. Quelles sont les techniques les plus utilisées actuellement pour donner du volume? Ou alors à l'inverse, réduire la taille de sa poitrine. Et puis il y a également des liftings ou des interventions uniquement sur les mamelons. Le docteur Marco nous expliquera tout.
Ensuite Mélanie, à midi dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour sera portée une nouvelle fois par le chef Abdel Alaoui. Et ce midi, il va nous donner ses meilleurs conseils pour sublimer un plat d'hiver par excellence, la raclette. Ensuite, on éliminera un peu les kilos de fromage englouti avec notre coach Jean-Marc Delorme. Il nous propose un focus sur une nouvelle tendance sportive, le fitness snacking. Alors ça a l'air gourmand comme ça, mais je crois que ça fait quand même pas mal transpirer. Et ça, même si c'est du sport qui se picore, vous verrez.
Et puis nous terminerons la partie tendance du jour avec la chronique d'Elsa Lévy. Ce mardi, elle nous propose de partir à la découverte du monde mystérieux des insectes. Des insectes qui sont et seront peut-être même très bientôt de plus en plus présents dans nos assiettes.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Aujourd'hui, on va se poser cette question pour bien démarrer l'émission. C'est quoi un bon patron ?
Et oui, c'est important comme sujet, qu'on soit soi-même le manager de plusieurs personnes ou qu'on soit employé. En tout cas, on rêve tous d'avoir ou d'être le patron, la patronne idéale. Alors, quelles sont les qualités essentielles pour être le meilleur boss de la planète ? On va détailler tout ça dans un instant avec notre invité. Mais pour le moment, pour démarrer l'émission, on a fait appel au boss des boss. Il gère lui-même pas mal de monde au quotidien avec un grand talent, c'est Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour et merci pour cet accueil. Effectivement, on va parler des patrons aujourd'hui, des bons patrons. Qu'est-ce qu'un bon patron ? Alors c'est très subjectif, on verra tout à l'heure. Mais j'ai demandé aux enfants déjà ce qu'était un patron.
Un patron, ça sert à donner des ordres, à être tout rouge quand il parle. C'est le chef d'une entreprise, par exemple. C'est quelqu'un qui commande, qui dit ce qu'on doit faire. Et...
c'est celui qui te guide, qui te donne des ordres et qui te paye.
Un tyran,
qui te paye aussi. Hein.
C'est à peu près résumé comme ça pour les enfants. Alors, ils ont...
tout rouge, voilà. Il donne des ordres, il a l'air sympa. Hein.
Et justement, si on n'est pas dans l'entreprise, c'est le cas des enfants, dans la rue, à quoi on reconnaît un patron ?
Ils sont souvent tout en noir, et quand on se rapproche d'eux, bah ils sentent souvent, ça sent très la classe. Ils ont un costume bleu avec leur petit cravate ou un autre papillon, bien coiffé, comme ça. Et des chaussures, comme mon père, il a noir serré, là. Il se tient toujours bien droit, comme ça. Il marche doucement, tranquillement.
Il transpire beaucoup, alors il revient du travail et fait « Non, ça va pas !» Il devient tout rouge et à la fin, bah, il hurle sur tous ses collègues et à la fin, bah, ça se passe mal.
Vous la sentez l'odeur de la patronne, Julia ? Ça sent la classe.
Il faut des chaussures pointues, c'est. Est-ce que vous avez des chaussures pointues ?
Et serrées. Ouais, Julia, c'est bon.
Julia, vous êtes une patronne. Alors justement, attention, parce que patron, ça fait rêver parfois, mais est-ce qu'on les aime bien ou pas, les patrons ?
Pas trop aimés, parce qu'ils donnent trop d'ordres.
On les aime bien, hein, parce que ma mère, l'année dernière, elle était patron et... bah, quand elle sortait du travail, elle râlait pas.
Bah, ils sont un peu aimés et un peu pas aimés parce qu'ils se croient au-dessus de tout le monde, même du président.
Même du président. Les patrons, ils se trouvent au-dessus du président. Alors justement, on parlait de patrons, mais maintenant on va aborder les bons patrons. Qu'est-ce que c'est selon vous un bon patron ?
Un bon patron, pour moi, ça va être une personne qui va être capable de comprendre que certains jours, bah, on peut aller moins bien que d'autres, être moins productif et être humain tout simplement et qui ne voit pas que le côté professionnel, qui ne nous voit pas comme des robots.
On sent qu'elle a fait une boulette et qu'elle veut se faire pardonner directement. Alors, il reste quand même des gros clichés sur les patrons.
C'est quelqu'un qui est mieux payé pour travailler moins.
Un patron, bah les patrons, hein, au finalement, c'est comme les étagères, plus c'est haut et moins ça sert.
Ça c'est dur. Hein,
ouais, les patrons sont victimes quand même de ça. Il y a du patron bashing justement. On n'aime pas trop les patrons. On aime bien râler. Alors le meilleur des patrons, je l'ai trouvé, c'est celui-là.
Un bon patron, pour moi, c'est un patron qui est doux et ferme à la fois. En fait, c'est un matelas, quoi.
Voilà. Pas mal.
Une façon de résumer les choses, on va voir ça.
Bah merci beaucoup Clément pour cette belle mise en bouche sur notre sujet du jour. C'est à chaque fois un vrai plaisir de démarrer la journée avec vous. Vous trouvez qu'on est de bonnes patronnes avec Mélanie ?
Ah, moi, je vous trouve fabuleuse.
Ouais, des fois, au contraire, attention, sinon voilà. Je me mets tout rouge.
Mais non, mais je vous le dis hors antenne, mais non, mais oui, c'est ça, vrai. C'est donner des directives sans être forcément tyrannique.
Ouais,
donc, bravo.
Et on a le carnet de chèques aussi avec Mélanie. Bon, à présent, on va donner la parole à notre invité. Bonjour Charlie Clark.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, vous êtes expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers.
Ça fait flipper un peu, je trouve.
Ouais. Et vous êtes habillé en bleu marine, je le précise, et ça sent la classe.
Merci beaucoup.
Mais vous avez un petit truc, une petite touche de jaune quand même, c'est sympa.
Non, mais ça sent le patron. Alors, le patron idéal, justement, Charlie Clark, est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce que c'est un mythe ?
Bah, le patron idéal, évidemment, c'est un mythe. Nous, vous l'avez dit, on accompagne des dirigeants tous les jours. Ils viennent chez nous pour se former notamment à la parole. Et ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de patron idéal. En revanche, il y a des patrons qui cherchent à devenir idéal, qui cherchent à se former et ils y travaillent. Et c'est vrai, je crois qu'on a tout entendu de la bouche de ses enfants. Et ils ont tout dit, honnêtement, ils ont tout dit. Et un mot que je retiens, c'est le patron, il transpire.
Ouais, alors c'est marrant, moi je me suis demandé pourquoi il disait ça.
Parce qu'il a beaucoup de boulot, non ?
Parce qu'il a du boulot, parce qu'il a un métier qui est stressant et parce qu'il prend la parole. Et ça, on va sans doute en parler beaucoup ce matin ensemble, mais une des composantes essentielles du métier de patron, c'est de parler, c'est d'expliquer les choses, c'est de communiquer. Et parler, c'est un sport. Et forcément, quand on fait du sport, on transpire.
Donc c'était tout juste en fait, dans ce micro-trottoir. Est-ce qu'on sait si de façon générale, alors là on a entendu un petit panel dans le micro-trottoir de Clément Lanoux, mais est-ce qu'on sait si de façon générale, les Français, on sait qu'on est connu pour être des râleurs. Est-ce qu'on aime nos patrons en général ? Quelle relation les Français ont avec leur hiérarchie, quoi ?
Alors justement, nous, on a voulu comprendre cette relation. On a sondé plusieurs milliers de salariés avec Opinionway pour savoir quel rapport ils ont avec leur patron et notamment la parole de leur patron. Et là, on a fait une découverte, si vous voulez. Il y a un paradoxe. C'est que d'un côté, les salariés trouvent que leurs patrons ont la classe, comme on le disait tout à l'heure. 83% trouvent que leurs patrons s'expriment bien, qu'ils sont brillants. En revanche, ils sont très peu nombreux à les trouver motivants, à les trouver inspirants. Il y a aujourd'hui en France que 12% de salariés qui trouvent leur patron vraiment inspirant.
Oui, c'est pas beaucoup,
c'est pas énorme. Hein.
C'est mais alors, quand on n'aime pas son patron, c'est bien souvent aussi, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas assez de dialogue entre lui et nous. Donc, en gros, si on résume, un patron qui ne discuterait pas avec ses employés, c'est un mauvais patron, selon vous ?
Absolument. Ça, je suis catégorique là-dessus. Ouais. Le rôle du patron, c'est de motiver. Et pour motiver, il n'a pas le choix, il doit prendre la parole. C'est jamais un mail, c'est jamais de l'écrit qui va motiver le salarié. C'est toujours un patron qui est là, qui mouille sa chemise, qui transpire et qui explique les choses. Donc il n'a pas le choix, il doit parler. Et aujourd'hui, il y a un drame, c'est que dans l'étude que nous avons menée, on se rend compte que quand un dirigeant parle, pour 46% des salariés, ça ne leur apprend rien. Et c'est une perte de temps.
Ah, il parle pas bien.
Il parle sans doute pas bien, ou en tout cas, il n'a pas les bonnes préoccupations quand il s'adresse aux salariés. Et finalement, il leur parle pas d'eux. Et ça, je pense que c'est peut-être la définition que je voudrais donner aujourd'hui avec vous, c'est que un bon patron, c'est évidemment un patron qui considère ses salariés et qui, lorsqu'il leur parle, lorsqu'il s'exprime avec ses salariés, il leur parle que d'eux. Ah. Et ça, évidemment, il y a beaucoup de dirigeants qui débarquent chez nous. Ils sont un peu auto-centrés. Ils viennent chez nous pour se former, pour devenir brillants. Mais être brillant, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est d'être inspirant. Et ça passe forcément par ce rapport avec le salarié qui est en face.
S'intéresser vraiment à ses salariés. Alors, être patron, c'est aussi, vous l'avez dit, ça transpire un patron, c'est donc des responsabilités, du stress. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie jamais de leur vie d'être manager parce que justement, il y a trop de stress ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'aspireront jamais à ça ?
A priori, oui, et c'est encore un des chiffres intéressants de l'étude, c'est que 60% de salariés aujourd'hui, 60% de salariés n'ont pas envie de devenir patron.
Ah, plutôt la majorité.
Oui, beaucoup, parce que justement, ils le savent, être patron, c'est parler. Et ils n'ont pas envie de parler, ils ont peur, ils n'ont pas les outils pour s'exprimer et ils n'ont pas envie du coup de diriger.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des aussi à l'inverse des personnalités qui sont nées pour être patron, des personnalités...
Des baby boss, quoi,
ouais,
de la naissance.
Qui sont nées pour diriger. Est-ce que ça peut exister, ça ?
Sans doute. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que personne ne naît avec les outils du patron. Et donc, devenir patron, ça s'apprend. On apprend plein de choses dans des très grandes écoles en France, mais c'est souvent des choses de l'écrit. On n'apprend pas les choses de l'oral, les choses du manager. management, de l'empathie. Et donc, tout ça, ça s'apprend, ce sont des techniques.
Très bien. Charlie Clark, vous restez avec nous. On va continuer cette quête du patron idéal. D'ailleurs, on commencera par se mettre dans la peau d'un patron, d'un manager. Comment savoir qu'on est un bon spécimen? Y a-t-il d'ailleurs, en 2021, encore des codes vestimentaires à respecter quand on supervise d'autres personnes? On va répondre à toutes ces questions et bien d'autres ce matin sur Europe 1.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission dans laquelle on parle de votre vie quotidienne sous tous les angles et on tente surtout, si possible, de les arrondir ici tous les matins en direct de 11h à 12h30. Alors, on se pose cette question aujourd'hui, c'est quoi un bon patron? Et pour les repérer justement, ces managers presque parfaits, c'est Charlie Clark qui est en studio avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers chez Wiscom. Alors, pour commencer, on va d'abord se mettre du côté des patrons. Vous dites qu'il y a trois outils, je crois, trois outils essentiels pour être un bon patron. Lesquels en particulier ?
Trois outils pour motiver, pour créer la confiance. Le premier outil, c'est la pédagogie. C'est expliquer les choses clairement, se faire comprendre. Le deuxième outil, c'est l'empathie. Cette capacité aussi à partager sa connaissance avec ses collaborateurs, se mettre à la place des collaborateurs, les comprendre. Et le troisième outil, quand même, c'est l'autorité. C'est qu'un patron, il doit être autoritaire au sens noble du terme, c'est-à-dire connaître ses sujets, être légitime sur ses sujets et savoir de quoi il parle.
Pas forcément se mettre tout rouge, là, comme
non,
on dit les enfants tout à l'heure.
Non, être tout rouge, ça sert à rien. S'il en arrive là, c'est trop tard, déjà.
C'est ça. J'ai noté les trois trucs. Hein. Empathie, autorité,
ouais,
il m'en manque un.
Et alors, empathie, autorité et pédagogie.
À pédagogie. Oui, c'est ça. Vous voulez prendre le pouvoir, Julia, c'est
j'aimerais
ça
bien. Moi, j'adore l'idée d'être chef, mais alors, j'aimerais être une bonne chef. Est-ce que, par exemple, ça, c'est vraiment très personnel, pratiquer l'humour, est-ce que ça peut être quelque chose de crédible quand on est patron ou patronne?
Oui, avec quand même un warning, c'est que l'humour, par définition, c'est clivant. Il y a des personnes qui vont vous aimer pour vos blagues, d'autres qui vont moins vous aimer pour vos blagues, et je sais de quoi je parle. Et du coup, le rôle du patron, c'est quand même de rassembler tout le monde.
Vous faites des blagues, vous, ou pas? Parce que je me suis demandé pourquoi je sais de quoi je parle.
Je parle de moi, je parlais pas de vous, d'accord, rassurez-vous. Et le rôle du patron, c'est quand même de rassembler tout le monde. Donc, s'il fait des blagues, il y a certaines personnes qui vont pas l'aimer pour ses blagues, et là, et il passe à côté de son rôle de patron. Donc, l'humour, warning.
Ouais, attention. Est-ce qu'il y a quand même un âge minimum pour être un bon patron? Parce qu'effectivement, parfois, on voit des jeunes gens accéder à des hauts postes, et on se dit que c'est un peu des bébés, quoi. Ils sont pas très respectés par leur entourage.
Je crois pas. Nous, ce qu'on voit, donc chez nous, il y a des patrons qui viennent tous les jours se former aux techniques de prise de parole. Ils sont de plus en plus jeunes.
Ah ouais. Le plus jeune, il a quel âge?
Le plus jeune, il doit avoir 30, 35 ans.
Ah ouais.
Et ils ont une qualité, ces jeunes, c'est qu'ils se remettent en question. Ils se forment. Contrairement peut-être à l'ancienne génération des patrons qui, eux, sont un peu sur leurs acquis et ne vont pas vraiment se former. Et donc, finalement, être un bon patron aujourd'hui, c'est plutôt être jeune.
D'accord. Est-ce que le look, on a entendu parler aussi tout à l'heure beaucoup d'enfants dans le reportage de Clément Lanoux, mais est-ce que le look est important pour être un bon patron? Est-ce que, il décrivait les chaussures serrées, le costard tout noir en bleu marine? Est-ce que ça, c'est toujours apprécié des salariés? C'est plus un passage obligé?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qui est certain, c'est que le patron, il doit définir des valeurs pour l'entreprise et son look doit être congruent avec les valeurs de l'entreprise.
Bermuda tong, c'est pas génial quand même.
Si ce sont les valeurs de l'entreprise, pourquoi pas.
Si c'est le guide du routard, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Exactement.
Sac à dos, évidemment.
Exactement. Ouais. Alors on a l'image aussi du bureau du patron au dernier étage, porte fermée, tour d'ivoire, tout ça. Est-ce qu'au contraire, un bon patron doit garder sa porte ouverte au maximum de temps, voire même un bureau, pourquoi pas, au milieu de ses salariés? Qu'est-ce que vous préconisez, vous?
Le patron, il doit être accessible, c'est certain. Et en même temps, il doit laisser de l'autonomie à ses équipes. Donc je dirais que c'est un juste milieu. Il faut que les salariés sachent que sa porte est ouverte s'ils en ont besoin, mais que par ailleurs, il n'est pas là en train de les épier à travers une vitre où il pourrait surveiller tous les salariés toute la journée.
Voilà. Parce que l'avoir en plein milieu de l'open space, le patron, ça pourrait être
aussi un peu stressant pour tout le monde.
Et puis un patron, il a besoin aussi de temps en temps de confidentialité, de toute façon. Donc c'est pas fou qu'il ait quand même toujours un bureau un peu à part.
Mais ça, dans l'entreprise aujourd'hui, il y a eu notamment dans les grands groupes français des mouvements. C'est des mouvements permanents de réorganisation des espaces. Alors on est passé sur le full open space. On avait le patron au milieu de l'open space, etc. Et ça, on se rend compte que c'est pas tout à fait raisonnable, que c'est pas la réalité non plus, que le patron, il a des rendez-vous parfois confidentiels, vous l'avez dit. Et donc, qu'il ait un bureau, ça me paraît pas indécent.
Alors, être manager et timide, est-ce que ça, c'est compatible? Parce que si on est timide, on n'a pas forcément envie de parler devant 200 personnes. Ouais. Comment on fait dans ces cas-là si on est timide?
Si on est timide, moi je le suis. C'est une confidence que je vous fais ce matin. Moi, je suis horriblement timide. Je suis un timide maladif.
On ne croirait pas.
On ne croirait pas parce que j'applique mes techniques, les techniques que nous proposons. Et donc, quand on est timide, généralement, on est assez bon à l'oral parce que justement, on est timide. Donc, on ne se satisfait pas de ce qu'on est et on va encore une fois se former. Et je vais vous dire un secret. J'espère que peu de gens nous entendent.
Très peu, j'espère.
j'espère.
Personne.
C'est que être naturel à l'oral, paraître bon, c'est que de la technique. Et ça paraît très antinomique, ça. Mm-hmm. Mais être bon, celui que vous jugez bon, talentueux, charismatique, il est gonflé de technique. À l'inverse, celui qui débarque chez nous et qui veut rester naturel, qui veut rester lui-même, eh ben souvent, il n'est pas très bon parce qu'il est parasité, il a plein de défauts.
Puisqu'on est entre nous, hein, là, voilà, on est dans les secrets, il y a des personnes qui nous écoutent. Hein. C'est quoi vos secrets là, pour être aussi à l'aise ce matin? Parce que j'imagine, si vous êtes intimide, venir voir Julia et moi ce matin,
oui, surtout nous, on est drôlement impressionnant.
Drôlement impressionnant. Ouais, la patronne Julia, là, elle fait peur.
Il y a un secret qui va vous surprendre. Ouais. C'est les pieds.
Ah, qu'est-ce que vous faites avec vos pieds? C'est vrai qu'on les voit pas. Hein.
La parole, tout se joue au niveau des pieds. Les pieds, c'est la base du corps, c'est la base de votre voix. Et pire que ça, les pieds, c'est la base du cerveau. Donc, si vous voulez bien réfléchir, trouver vos mots, etc., il faut que vos pieds soient solidement accrochés.
Donc, bien posés à plat. Hein,
on parle de la prise terre. Si vous n'êtes pas solidement accroché sur la prise terre, vous allez disjoncter. Donc, un, on s'accroche au sol. Et ça, ça va être la base de tous les outils qu'on va pouvoir implémenter derrière.
Ah, génial. Mais à l'inverse, si on est du côté des salariés, c'est quoi les bonnes astuces pour tisser de bonnes relations avec son patron pour être un super faillot?
Un gros faillot, ouais.
Honnêtement, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les conseils que je viens de vous donner pour le dirigeant, ils s'appliquent aussi du côté du salarié. Je pense qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que le dirigeant, lui, il y a une chose qu'il déteste, c'est l'imprévu, c'est les mauvaises nouvelles. Donc finalement, le bon salarié, c'est celui qui met son patron, qui met son dirigeant dans du confort.
C'est celui qu'on n'entend pas, quoi. Bah, pas forcément sur un piédestal, mais dans du confort.
Dans du confort, c'est-à-dire qu'il le prévient en amont, et il lui fait des points régulièrement, il est proactif, il lui donne du confort. Et ça, si le salarié fait ça, à mon avis, il marque énormément de points.
C'est bien parce qu'avec vous, on peut être des deux côtés, c'est vraiment très agréable. On doit s'adapter à son patron et pas l'inverse. Enfin, par exemple, si je ne sais pas, il préfère les mails, vous disiez les mails, on évite, il faut quand même s'adresser aux gens en vrai de temps en temps.
Ouais.
Donc on fait quoi? On ne l'appelle pas le patron, les mails? Comment on gère ça?
Ça, c'est la relation humaine. La relation humaine, effectivement, la première chose, c'est qu'il faut s'adapter à celui qui est en face. Et si vous voulez le toucher, si vous voulez le convaincre, il faut quand même comprendre ses codes.
Et donc, si on veut l'aider à devenir meilleur, on peut lui dire, parlons un petit peu.
Alors, on peut lui dire, mais on ne lui dit pas devant tout le monde.
Ouais. Ah, okay. Ça, c'est une règle importante.
Et ça, c'est une règle dans les deux sens. Un patron, s'il doit faire une remarque à un collaborateur, il ne va pas la faire devant tout le monde. Il va le convoquer entre quatre yeux, et là, on va se dire les choses calmement. Et c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez un reproche à faire à votre patron, à votre dirigeant, ne lui faites pas encodir devant tout le monde. Ça sert à rien.
Encodir comité de direction. Donc.
En comité de direction, ouais.
On peut copiner avec son supérieur, parce que est-ce qu'on peut, par exemple, l'inviter à dîner chez soi? Moi, je me souviens, mes parents, ma mère,
mon père aussi,
invitait
son patron.
Et voilà, ils étaient invités. Et ma mère, elle s'est fait mordre par le chien du patron.
On saura tout, il n'y a pas de secret ce matin.
C'est ce que je vois.
Mais alors, du coup, comment ça se fait, là, de copiner de nos jours?
Ouais, ça se fait. À mon avis, c'est délicat. Ce qui est vrai, c'est que malheureusement pour lui, le patron, il est quand même toujours un peu mis à l'écart. Il est toujours un peu mis de côté. Et
donc, il sera peut-être très heureux qu'on l'invite à dîner.
Il sera sans doute très heureux. À mon avis, c'est risqué. C'est la même chose dans les relations professionnelles avec vos collaborateurs. Est-ce que vraiment vous voulez les inviter chez vous à dîner? Souvent, on conseille quand même qu'il y ait une petite frontière entre vie perso et vie pro. C'est pas mal.
Le bon patron, en général, il le sait qu'il a un bon patron, parce que moi j'ai l'impression que même des mauvais patrons sont persuadés d'être des bons patrons.
C'est une très juste remarque. Je crois que les bons patrons, encore une fois, c'est ceux qui savent qu'ils peuvent progresser. Et ça, il y en a quand même quelques-uns, il y en a d'ailleurs de plus en plus. Et donc, il y en a quand même. Et il y a effectivement des patrons qui, eux, sont trop sûrs d'eux. Mais à mon avis, au fond d'eux, ils le savent quand même. Ils le savent, mais ils ne veulent pas se l'avouer.
Il n'y a pas d'entretien annuel pour les patrons? Parce que nous, on en a en tant que salariés. Ce serait bien de pouvoir...
Il n'y a pas d'entretien. Si, un directeur général, il va être convoqué par son conseil d'administration, avec son président. Il ne faut pas croire que le patron, il est tout seul là-haut, il fait ce qu'il veut.
Il a toujours
un patron quelque part.
Et pour les patrons qui nous écoutent, justement, c'est quoi les signes qui ne trompent pas, qu'il faut changer, quoi? On n'est pas un bon patron, ça ne va pas du tout, là.
Je viens avec un conseil ce matin, c'est le silence. On en parlait tout à l'heure pendant la pause. S'il y a un outil élégant, un outil classe, pour citer les jeunes, les enfants de tout à l'heure, la classe du patron, pour nous, c'est le silence. Et vous l'avez dit, on s'appelle Wistcom. Wist, en anglais, ça veut dire chute, tais-toi. Ça veut tout dire. Ça veut dire que chez nous, la recherche du silence, c'est clé. Et pourquoi le silence? Parce que c'est ça qui crée de l'empathie. Si vous mettez un silence, vous laissez l'autre réagir en face, vous allez essayer de comprendre l'autre dans le silence. Et puis, surtout, le silence, c'est quand même ce qui vous permet de réfléchir. Si vous parlez sans arrêt, jamais vous pourrez réfléchir, jamais vous trouverez les bons mots, le mot juste, le mot qui va toucher, qui va percuter. Ça, c'est le silence. et ça s'apprend.
Ah, on va devoir apprendre à se taire, Mélanie, vous et moi, on a du chemin à faire. Charlie Clark, on n'en a pas fini avec vous et vos conseils pour repérer un bon patron ou même travailler sur soi quand on est soi-même un patron et qu'on n'est pas certain d'être toujours au top. Vous qui nous écoutez, si ce sujet vous inspire ou que vous avez une question, vous pouvez nous laisser un message au 3921, notre répondeur, ou encore sur les réseaux sociaux, par exemple sur le compte Instagram de l'émission.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes toujours en studio avec Charlie Clark. Alors je rappelle que vous êtes expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers.
Chez Whitcom.
Exactement.
Whitcom.
Avec Mélanie, on a les pieds bien ancrés dans le sol parce qu'on sait que c'est aussi comme ça qu'on devient un bon manager. On a des questions de nos auditeurs pour vous et c'est marrant avec le sujet des patrons, on a plus de questions que d'habitude,
bizarre, ouais.
Mélanie. Bon, on a par exemple Nicolas sur Facebook qui dit « J'ai un patron qui d'apparence semble calme, mais il peut vite être colérique. Je n'ose pas aller lui parler de peur qu'il me crie dessus. Avez-vous des conseils pour l'aborder? Je me sens infantilisée et j'en ai marre. »
Et on le comprend.
Ah oui, c'est...
Bah, ce sont les mêmes conseils que j'ai donné tout à l'heure au patron. Il y a trois outils d'une bonne relation humaine. C'est encore une fois être pédagogique, donc c'est expliquer calmement les choses. C'est avoir de l'empathie, c'est aussi savoir se mettre à la place du patron. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est que bien souvent, on demande au patron de se mettre à notre place, nous, salariés. Mais nous, on ne fait pas trop l'effort en tant que salariés de se mettre à la place du patron, du dirigeant. Et généralement, quand même, si vous faites ça, Nicolas, il y a de fortes chances pour que votre patron il vous écoute.
Mais alors, ça veut dire pédagogique, c'est dire à son patron, je viens vous voir, car quand vous vous mettez en colère, sachez que moi, ça me tétanise.
Exactement.
On a le droit de dire ça.
Je pense qu'un patron, s'il ne sait pas entendre ça, ce n'est pas un patron.
D'accord.
Mais généralement, on n'ose rien leur dire au patron. Et ça qui est terrible pour eux, c'est qu'ils vivent dans un endroit où personne ne leur dit plus rien du tout.
Je comprends.
Et un patron qui reçoit cette phrase-là d'un salarié, c'est voilà, j'ai très peur de vous quand vous criez, ça me met insupportable. Comment il doit réagir? Il s'excuse? Il fait quoi, le patron?
Écoutez, en tout cas, il doit écouter dans un premier temps. Ensuite, si il pense qu'il n'a pas la réponse tout de suite à apporter à ce salarié, il revient plus tard avec une réponse, mais en tout cas il doit savoir accueillir ce genre de réflexion et honnêtement, pour côtoyer beaucoup de dirigeants, ils accueillent sans aucun problème la critique, la remarque, et au contraire ils en demandent, mais ils n'en ont pas.
On a François, 54 ans, au 3921, notre répondeur, a dit qu'elle croise son patron une fois par mois au mieux. Elle a relativement une bonne image de lui, mais pensez-vous qu'on aurait une meilleure image encore s'il venait tous les jours nous dire bonjour au moins, car en réalité il est présent dans la tour où nous travaillons, mais on ne le voit quasi jamais.
C'est certain. C'est certain. Ça, c'est pour moi une des règles du patron, du dirigeant, c'est qu'il doit être présent, il doit être visible. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, il doit montrer que la porte, elle est ouverte. Donc, s'il vient qu'une fois par mois, c'est que la porte, elle n'est pas ouverte.
Dire bonjour, déjà, c'est le minimum, quoi. C'est pas grand-chose.
C'est le minimum, ouais.
Oui, alors j'ai aussi une question de Sonia de Béziers sur Instagram qui est très intéressante. Elle dit, est-ce qu'il faut arriver avant son patron le matin pour se faire bien voir?
Non. Ça,
ah bon?
Non, a priori.
Moi, j'aurais pu penser que si, hein, quand même.
Bah, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver après, quand même.
Donc, à peu près à la même heure, quoi.
Si vous essayez de caler à peu près, vous en pas du temps, arrangez-vous.
Ah non, mais moi, alors, si j'étais une grande patronne, j'aimerais bien que mes employés soient tous au garde-à-vous. Hein.
Ah oui, ils vivent la révérence quand vous arrivez dans l'entreprise, c'est ça. Avec le café, bien sûr, tout prêt,
les chaussons.
Et la masseuse. Voilà.
Ce qui compte, évidemment, c'est la qualité du travail, mais c'est facile à dire et c'est plus difficile à faire. Il est vrai que quand on voit pas ses salariés, on s'inquiète.
Ouais, j'ai une question aussi qui est très intéressante, qui va vous plaire, Julia. C'est Nordine sur Instagram qui dit, comment dire à mon patron que je mérite une augmentation? Vous avez des conseils pour avoir le maximum de chances de l'obtenir? Là, on est dans la manipulation du patron, expliquez-nous.
Alors là, c'est clé, et là j'ai un vrai conseil à vous donner,
génial,
à tous, écoutez bien. La plupart du temps, quand on s'exprime, on ne se rend pas compte, on est en train de donner son opinion personnelle. C'est-à-dire, c'est Julia qui va voir son patron et qui lui dit...
Je pense que je mérite une augmentation de salaire parce que je suis super.
Exactement. Et là, le super, ce n'est même pas une opinion, c'est un sentiment, c'est votre cœur qui s'exprime, etc., etc. Et donc la plupart du temps, on ne se rend pas compte, on exprime soit son opinion, soit son sentiment.
Il faut aller sur des faits.
Et oui, madame, parce que l'opinion, chacun a son opinion, et on pourra jamais convaincre quelqu'un avec son opinion. En revanche,
si dans un monde imaginaire, Julien la demande comment?
Alors, je viens vous voir, Charlie, vous êtes mon patron. Bonjour, Charlie. Vous vous êtes rendu compte que depuis que je suis installée au micro avec Mélanie Gomez, nous avons augmenté l'audience de 30%.
Voilà, madame. Voilà. Absolument. Et là, ensuite, vous donnez votre opinion. Donc, je pense que ça mérite une augmentation de salaire.
De 50%.
Là, vous terminez avec la petite touche dont il ne faut pas se priver. c'est le sentiment. C'est prendre par les sentiments.
Ah,
c'est,
quand même.
C'est dire, en plus, tu le sais, pour moi, c'est important de me sentir que tu m'encourages. Et donc, cette augmentation de salaire, c'est aussi me prouver que tu crois encore en moi, en mon travail, etc. Et si vous faites ça, si vous faites des faits, ensuite votre opinion et ensuite du sentiment, là, c'est le cocktail gagnant pour tous les sujets.
Wow. Fait, opinion, sentiment. Alors, génial. Une dernière rapidement, on a Claire de Toulon au 3921, encore notre répondeur. Mon chef me fait rarement des compliments. Pourtant, il a l'air content de mon travail. Est-ce que vous pensez qu'un bon patron doit faire des compliments? Faut-il s'attendre à des louanges sur le lieu de travail?
Tous les jours.
Ah, tous les jours.
Il faut tous les jours féliciter ses équipes, les encourager, les motiver. Ça passe par ça aussi, la motivation.
Donc le bon patron, c'est une patronne, en fait, peut-être.
honnêtement, c'est indifférencié. C'est-à-dire que le bon patron, c'est celui qui, encore une fois, que ce soit une patronne d'ailleurs, met de l'empathie, de la pédagogie, de l'autorité, et qui n'a qu'une seule préoccupation, c'est s'adresser aux salariés et leur parler que d'eux.
Eh bien, merci beaucoup. Fait, opinion, sentiment. J'ai bien tout noté. Mélanie, on va peut-être passer à notre sujet.
Bah oui.
Mais d'abord, on va remercier Charlie Clark de nous avoir accompagnés ce matin et d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, grâce à vous, maintenant, je vois mieux, j'imagine mieux, moi, le patron idéal. Je ne sais pas
c'est
vous
je crois, Julia, vous avez tout compris.
En tout cas, on a bien saisi les qualités essentielles. Merci à vous.
Merci. Maintenant, Julia, on va passer donc à toute autre chose. Un sujet important, lui aussi, pour notre bien-être à nous, les femmes, pour le coup. Quelles sont les interventions possibles aujourd'hui au niveau mammaire quand on souhaite corriger un défaut, un complexe, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Tout de suite, nous accueillons donc notre invité santé du jour. C'est vous, docteur Aurène Marco. Bonjour.
Bonjour les filles.
Alors
bonjour.
Habituellement, évidemment, on vous connaît bien parce que vous êtes chroniqueur dans l'émission, mais on s'est dit qu'on allait profiter de votre expérience pour creuser un peu plus ce sujet des interventions esthétiques au niveau des seins.
Exactement.
Alors d'ailleurs, est-ce que les seins, c'est la zone numéro 1 sur laquelle les femmes souhaitent intervenir en esthétique? Et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
C'est toujours le cas. Alors effectivement, on a d'autres interventions qui sont de plus en plus à la mode. Mais les seins, ça reste quand même la partie du corps qu'on souhaite le plus traiter. Soit on est jeune et complexé par une petite ou une trop grosse poitrine, soit on a eu des enfants et la poitrine a changé, soit on a vieilli un peu et on a envie de faire un peu plus jeune.
Plus jeune.
Parce que la poitrine, ça participe quand même à... C'est le côté maternel et le côté féminin.
Bien sûr.
Dans votre cabinet, par exemple, dans votre consultation, si on regarde votre patientèle et les demandes que vous avez tous les jours, de patienteux, puisque là on parle de poitrine aujourd'hui, ça représente quelle part de votre activité, les interventions mammaires,
Je dirais 50 à 60% carrément. Après, c'est toujours possible que ce soit un biais de sélection, parce que peut-être que je suis plus reconnu pour les seins.
Mais bon, quand vous en parlez avec vos confrères, c'est à peu près pareil.
Mais je crois que c'est à peu près pareil, effectivement. Les seins, ça représente la moitié, je dirais, des consultations.
Et juste par curiosité, derrière, il y a quoi? Derrière les seins, c'est quoi? Le nez?
Derrière les seins, les demandes, c'est soit la chirurgie anti-âge, donc le vieillissement, soit le nez. Mmh. Numéro 2, je pense que c'est le nez. Et après, il y a tout ce qui est la silhouette.
Vous avez parlé des fesses, là, récemment, etc., qui montent en puissance. Et cette zone du corps, donc les seins, quand elles ne correspondent pas ou plus à ce qu'une femme souhaite, ça peut vraiment engendrer une souffrance morale? Vous le voyez, vous, en consultation?
Alors, je vois pas forcément de souffrance morale parce que elles savent maintenant, comme ce sont des opérations qui sont quand même assez, on sait à peu près vraiment ce qu'on peut faire, etc. Donc, il y a toujours quand même derrière, on sait qu'on peut faire quelque chose. Donc, ça n'est pas aussi pesant, je dirais, qu'une rhinoplastie, par exemple, parce que ça, c'est un complexe qui est en plein milieu du visage. Donc, elles arrivent toujours de toute façon un peu à camoufler les choses, à tricher un peu.
On met des soutiens-gorge un peu balconnés remonte tout ça.
Au moins dans la vie sociale, on peut cacher cette partie du corps. C'est pas la même chose que quand on a un problème qui est lié au milieu du visage.
Quel âge elles ont en général? Vous avez dit qu'il y a un peu tous les âges, mais quand elles veulent plus de volume, elles ont quel âge? Quand elles veulent réduire, pour le coup, quel âge?
La réduction mammaire, c'est vrai que c'est marrant, ça peut être tous les âges, mais c'est volontiers plus dès l'âge de 18 ans, quand on a vraiment une hypertrophie mammaire invalidante, c'est-à-dire que c'est pas du surpoids, c'est vraiment ma glande mammaire qui s'est développée de manière anormale.
Un peu d'un coup brutal.
Et puis souvent, ce sont des filles qui souffrent un peu parce que c'était les premières à avoir de la poitrine à l'école. Donc c'est pas facile quand vous êtes en 6e et que vous avez déjà de la poitrine à côté des camarades.
Puis ça peut faire mal au dos.
Ça fait mal au dos. Et donc d'ailleurs, quand ça fait mal au dos, donc cette demande, elle est aussi bien esthétique, psychique, que fonctionnelle, médicale, hein, médicale parce que ça, le fait de réduire la poitrine, ça soulage complètement.
Et là, il peut y avoir une prise en charge éventuellement si ça, on prouve qu'il y a des douleurs lombaires, par exemple, des douleurs dorsales.
Voilà, alors pour avoir la prise en charge, il n'y a pas de demande particulière à faire à la Sécu. C'est quand vous allez voir votre chirurgien plasticien, ou en général, c'est plutôt les chirurgiens plasticiens qui font les réductions mammaires. Il évalue s'il y a plus de 300 grammes à retirer par sein. Et s'il y a plus de 300 grammes.
C'est au poids, quoi, entre guillemets, le remboursement.
Ouais. Si il y a plus de 300 grammes évalués, ensuite, on opère, c'est pris en charge. Et on envoie, en fait, de toute façon, à chaque fois qu'on retire de la glande mammaire, on est obligé d'analyser cette glande mammaire pour vérifier qu'il n'y avait rien de suspect ou d'anormal. Et cette glande mammaire pesée est contrôlée par la sécurité sociale.
300 grammes par sein, ou...
par sein.
Ah oui, ça fait un gros volume quand même à enlever.
Ouais.
Alors parfois, c'est juste d'ailleurs la forme du mamelon qui pose problème.
C'est vrai.
Alors, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire comme intervention sur le mamelon?
Les choses les plus demandées pour le mamelon, ce sont l'invagination du mamelon. C'est-à-dire que vous avez des patientes qui ont soit un tout petit mamelon, soit un mamelon qui rentre complètement. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est très complexant pour une fille, parce que les filles, c'est vrai. Alors je trouve que les complexes sont plus importants dans cette partie du corps par rapport au global du sein. Le mamelon invaginé, c'est une rétraction en fait des petits canaux galactophores, et donc on peut opérer.
Qui servent à allaiter, faire le lait dans la poitrine.
Et donc ces canaux galactophores sont rétractés, et donc on peut faire par une petite incision, qu'on peut même faire sous local si.
Donc j'allais dire, c'est pas grand chose, c'est pas très lourd. On n'est pas obligé de se refaire tous les seins. On peut faire juste le mamelon.
On peut faire juste le mamelon, ça prend une quinzaine de minutes. On libère ces petits canaux, on resuture. Alors après, ce qu'il y a.
Et le mamelon ressort.
Le mamelon ressort. Après, on peut plus allaiter.
Ah,
en tout cas, on peut essayer, mais c'est pas sûr que ça marche puisqu'on a coupé les canaux.
D'accord. Il y a pas de contrainte dans tout ce que vous venez de dire là. Bon, on va aller dans le détail juste après, mais qu'on veuille réduire sa poitrine, l'augmenter, faire une chirurgie du mamelon, est-ce qu'il y a une contre-indication? Je ne sais pas. Déjà d'être mineur, par exemple,
alors,
ou
oui,
d'autres choses.
Alors, c'est pas une vraie contre-indication d'être mineur, mais c'est vrai que globalement, quand on a une petite jeune fille qui a 16-17 ans, vous savez que maintenant à 16-17 ans, on est quand même très développé.
À 16 ans, vous ne faites pas une augmentation.
On ne fait pas une augmentation. Je parle juste de ce qui est médical.
Ouais,
si par exemple, la jeune fille, elle fait du G et elle pèse 50 kilos, effectivement, c'est invivable. Maintenant, on ne le fait pas vraiment parce qu'on a peur des cicatrices. Parce qu'à l'âge de la puberté, ou quand on n'a pas encore terminé sa puberté, les cicatrices sont très inflammatoires. Il y a beaucoup de synthèse de collagène et vous pouvez faire des cicatrices très, très rouges, très épaisses.
On préfère attendre un peu.
Donc on préfère attendre un peu.
Il vaut mieux attendre. Docteur Aurène Marco, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes et on va détailler justement quelques interventions mammaires que vous réalisez très souvent. On expliquera notamment ce qu'est un lifting mammaire. Et puis vous verrez qu'aujourd'hui, pour augmenter la taille de son bonnet, par exemple, on n'a plus forcément besoin de passer par la case implant en silicone. Il y a des alternatives qu'on vous précise juste après sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. En ce moment même, donc, avec le docteur Aurène Marco, chirurgien plasticien esthétique à Paris, on fait le point sur les principales interventions esthétiques de la poitrine. Alors, on va d'abord s'intéresser au lifting de la poitrine. Moi, je pensais que c'était que pour le visage, le lifting, mais non. Oui. À la cure de ptose mammaire, c'est comme ça que vous l'appelez.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Ça s'adresse à quel type de patiente? À des seins qui ont quel problème précisément? J'imagine qu'il faut avoir un certain âge peut-être.
Alors, on peut avoir effectivement besoin d'un lifting du sein plus âgé, parce que le sein a relâché après des grossesses, ou même tout simplement le vieillissement de la peau.
Oui, même à 40 ans, du coup on n'est pas vieille. Hein, ouais.
On peut avoir besoin d'un lifting du sein quand on a beaucoup perdu du poids. Effectivement, avec l'essor de la chirurgie bariatrique, avec les sleeves, etc., les patientes perdent du poids de manière très rapide et donc les seins relâchent. Mais on peut aussi avoir besoin d'un lifting du sein quand on a une malformation mammaire, même si on est jeune, c'est-à-dire que le sein pousse de manière tubéreuse, comme un tube, ou bien il relâche, on peut avoir des asymétries, etc. Et effectivement, on peut aussi bénéficier d'un lifting.
Pour visualiser, c'est les fameux gants de toilette, on parle de ça ou pas?
C'est un peu ça, je voulais le dire avec le terme médical.
Ouais, mais c'est pour ça,
Julia,
ça parle,
vous avez le droit de dire gants de toilette.
Ça parle au plus grand
exactement.
Nombre. Donc, en fait, on peut se le dire, l'allaitement a un impact sur l'aspect du sein ou pas, parce qu'on a entendu tout et son contraire à ce
propos. Alors, l'allaitement, effectivement, ça dépend en fait de la qualité de peau initiale, ça dépend un petit peu du volume que vous avez pris pendant la grossesse. C'est pas vraiment l'allaitement en soi qui va faire relâcher la peau, c'est plutôt le delta entre le volume que vous partez et le volume que vous prenez pendant la grossesse et ensuite cet amaigrissement rapide. Ce qu'on sait, c'est que quand vous allaitez et que vous arrêtez d'allaiter, brutalement, il y a vraiment la glande qui se rétracte.
Oui, on sent la différence.
Et donc, du coup, la peau ne va pas rétracter à la même vitesse que la glande. Et du coup, on peut avoir un retard de la peau et cette peau tombe et ça fait un sein qui relâche et qui retombe vers le bas.
Bon, de toute façon, pour faire le point, j'imagine qu'il faut attendre au moins un an après l'accouchement, l'allaitement.
Voilà,
enfin, on
ne
fait pas dans les semaines qui suivent, il n'y a pas urgence à venir vous consulter, on est d'accord.
On se dit qu'un sein peut rétracter sur un an, donc on attend au moins un an. Et puis surtout, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller se faire opérer si on décide de faire d'autres enfants.
Par exemple,
ça vaut mieux attendre.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire très concrètement dans un lifting mammaire? Quel geste médical vous allez pratiquer au bloc opératoire?
Tout dépend en fait du volume désiré de la patiente, du relâchement et de la position de la glande. Dans un lifting mammaire tout simple, c'est-à-dire qu'il y a juste la peau qui a relâché, on va retirer de la peau, on fait une cicatrice en encre marine, c'est-à-dire une cicatrice autour de l'aréole, verticale dans la partie inférieure du sein et
sous le sein,
dans le sillon sous-mammaire. Donc ça permet de retirer de la peau, de remonter l'aréole. L'aréole, c'est le rond avec le téton au centre. Et là, on peut avoir un résultat, on va dire, très naturel. Vous n'avez pas de remplissage, mais votre sein ne tombe plus.
Et il ne retombe pas ?
Il retombe toujours un petit peu.
Si on fait à 30 ans, entre guillemets, et qu'à 70 ans, il tombera forcément un peu plus.
Ouais. Après, quand on veut un peu mieux, un peu plus, si on a une glande un peu déshabitée, on propose de remplir. Donc, on a deux solutions pour remplir. Soit on met une petite prothèse mammaire. Et ces prothèses mammaires, en fonction du décolleté qu'on a, si on a envie d'avoir un décolleté un peu plus rempli, on peut mettre des prothèses un petit peu projetées, c'est-à-dire des prothèses un peu rondes, mais un petit peu plus volumineuses.
Pour
sur
côté plus pigeonnant, en fait.
Pour un côté plus pigeonnant. Et si on veut quelque chose de plus naturel, on met des prothèses plutôt plates. Et enfin, on peut aussi réinjecter de la graisse dans le décolleté.
Ça, on va le détailler juste après aussi, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir besoin d'un lifting pour faire tout ça, c'est juste pour l'augmentation. Mais dans le lifting, justement, quand vous faites juste cette cicatrice en forme d'encre et que vous allez enlever de la peau pour le retendre, le sein et le remonter, ça dure combien de temps au bloc tout ça? Parce que ça nous paraît simple là, comme ça, mais je pense que c'est plus long qu'on imagine, non?
Non, c'est pas très, très long, ça dure environ une heure et quart.
Ça va.
C'est l'anesthésie générale et c'est en ambulatoire.
Ça coûte cher.
Oui, ça coûte cher.
Bah, combien ?
Ça coûte entre, en fonction
entre
des équipes,
10,
entre 10, non, peut-être pas, mais entre 5 et 7. Ouais.
D'accord, donc ça coûte quasiment aussi cher que se mettre des prothèses.
Oui, parce qu'il y a autant de temps de travail.
Il y a un bloc, il y a une anesthésie générale.
Et ce qui est en fait que les devis, souvent les gens, il y a des devis qui sont un peu différents parce que ça dépend de la complexité des choses, si c'est long ou pas.
Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez proposer quand on veut une augmentation de la taille des seins ? Donc il y a les prothèses, il y a différents types de prothèses, c'est bien ça ?
Donc il y a différents types de prothèses, il y a des prothèses avant, il y avait des prothèses en sérum physiologique, c'est-à-dire de l'eau, qui ont été, vu que très peu de gens l'utilisaient, c'était beaucoup utilisé aux États-Unis, en France beaucoup moins, parce que le toucher était un peu moins agréable. Il y a de moins en moins de labos qui les proposent, donc c'est un peu plus difficile.
Plutôt silicone ici.
Maintenant, on fait plutôt du silicone avec une enveloppe de texture toute lisse et les prothèses sont assez souples. Maintenant, le gel de silicone est très très souple. J'entends souvent en consultation me demander, mais maintenant j'ai entendu dire que les prothèses c'était à vie. J'ai envie de dire, on peut pas savoir, madame, parce que celui qui vous dit ça, il vous dit n'importe quoi, il a pas testé lui-même.
Ça se surveille, en fait, non, c'est ça. Il y a des femmes qui vont les garder 15 ans, et puis d'autres, au bout de 8 ans, elles les rompent, il faut l'enlever.
Voilà,
hein,
exactement,
c'est ça.
Ça dépend un petit peu de l'activité physique, le sport, etc. Si on brutalise un petit peu les prothèses, elles rompent plus vite.
Alors, Mélanie, elle n'osera pas vous poser la question, donc je vous la pose à sa place. Elle se demande si on doit faire les deux seins en même temps. c'est sûr, non, mais c'est sûr, évidemment.
Bien sûr.
Évidemment, Mélanie.
N'importe quoi, celle-là.
Elle veut se venger de son décolleté, c'est
Bon, on est d'accord, tout ça se fait sous anesthésie générale. Vous avez parlé donc de là des prothèses et du lifting. Est-ce qu'on est hospitalisé ou est-ce qu'on rentre chez soi le soir?
Alors, ça dépend des manières de travailler de chacun. Moi, personnellement, je mets plus de drains parce que je trouve que ça sert à rien. Les petits drains, c'est les petits tuyaux qui font mal. Et on rentre en ambulatoire. Après, l'ambulatoire, c'est pareil pour tout. C'est pareil partout. L'ambulatoire, c'est possible si vous habitez pas trop loin de la structure.
Ou si vous n'avez pas trois gosses qui vous attendent, et que vous avez envie de passer une nuit à l'hôpital. Et à part les prothèses, vous parliez aussi de prendre notre propre graisse et de la réinjecter dans les seins, c'est ça?
Exactement.
Et ça marche bien ou pas?
Alors, il y a des critères, en fait, maintenant, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on
utilise
cette technique.
Déjà, il faut de la graisse, Julien. Ah, voilà. On n'en trouvera jamais sur moi, comment on va faire?
Alors, à l'époque, on utilisait beaucoup cette technique pour la reconstruction du sein en plusieurs temps. En esthétique, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui veulent se faire opérer deux, trois fois. Ils veulent une fois et puis c'est terminé. Mais je donne souvent cette image, injecter de la graisse, c'est comme vouloir planter une graine et faire un arbre. Il faut que la terre soit bonne.
Fertile,
et il faut que la graine soit bonne. Donc les patients qui ont eu des amaigrissements, des variations de poids, la graisse, elle a été privée. Vous avez fait des régimes, etc. Donc vos cellules graisseuses sont moins bonnes.
Il y a de la bonne graisse et de la mauvaise graisse.
Exactement, il y a de la bonne graisse et de la mauvaise graisse.
Celle qu'on fait beaucoup de régimes, c'est pas les bonnes candidates.
C'est pas des bonnes candidates. C'est vrai que la vraie candidate, c'est celle qui a du bon gras, qui a pas bougé, quoi.
D'accord. Et donc ce gras, on le prend, on le remet au bon endroit.
Exactement.
Enfin, en tout cas, si on le souhaite. En combien de temps on se remet justement d'une intervention? Je sais pas, la graisse c'est moins lourd que quand on pose des prothèses, une intervention plus légère.
Ouais, c'est plus léger. Ouais. La graisse.
On va avoir mal pendant combien de temps? Comment ça se passe?
Franchement, on a mal uniquement à la zone qui a été prélevée, pas du tout au niveau des seins. Les patientes.
Ça, c'est pour la graisse. Hein.
Ouais, pour la graisse, les patientes sont plutôt très, très courageuses. Et en fait, elles reprennent le travail, je dirais. Je veux pas faire de généralité, mais moi, c'est plutôt 48-72 heures.
Hein. Ah oui, génial. Ouais. Pour les prothèses, c'est plus long quand même, par contre.
Alors, pour les prothèses, ça dépend aussi de la technique qui est utilisée.
Sous quand le
on,
muscle.
Voilà, il y a la façon où on peut mettre les prothèses devant le muscle. Donc là, c'est très
vous
peu
y
douloureux.
Connaissez, Julien.
Mais parce que je rêve de le faire. Un jour, je le ferai.
Donc, il y a les prothèses devant le muscle qui sont très peu douloureuses et les prothèses derrière le muscle qui sont un petit peu plus douloureuses. Et encore derrière le muscle, il y a vraiment des sous-catégories. C'est-à-dire que si le chirurgien passe par l'aréole, il va arriver au milieu du muscle pour pouvoir les passer et ça fait mal. Et si on passe par en dessous, par le sillon, on arrive en bas du muscle et on sent rien.
Tout ça, c'est vous qui décidez. C'est du cas par cas. Chaque poitrine
c'est du cas
est
par cas,
unique.
Chaque patiente est différente. Elle a un mamelon comme ça, la
c'est
forme comme ça.
En discussion avec la patiente.
Et puis la patiente aussi qui peut un peu donner son avis.
Et puis si on veut un effet naturel, il faut peut-être parfois un peu plus souffrir. Hein,
parce que j'imagine qu'elles veulent tout un effet naturel aujourd'hui.
Pas toutes.
Ah non, ah bon, d'accord. Okay.
Est-ce qu'on peut parler de celles qui veulent se faire réduire les seins, Mélanie?
Oui, rapidement, bien sûr.
Rapidement, parce que comment vous faites dans ces cas-là? C'est quoi les techniques?
Donc
en fait
c'est la même cicatrice dont je vous parlais tout à l'heure pour le lifting
en
seins, sauf qu'au lieu d'enlever que de la peau, on va retirer de la glande mammaire avec.
Ah, c'est du muscle, donc c'est la glande
voilà,
que vous allez enlever.
Le muscle, on touche absolument pas. Ça, par contre, c'est une opération indolore totale.
Ah
ça
bon
ne fait pas mal, les patientes ne souffrent pas du tout, parce qu'on touche pas au muscle. Ce qui fait mal dans les opérations du sein, c'est dès qu'on touche au muscle.
D'accord. Et là, ça dure combien de temps au bloc quand vous faites une réduction
demie,
pareil.
Demie,
c'est toujours à peu près une heure et demie.
C'est à peu près la même chose parce que quand même, bon, comme je vous ai dit, ça s'est démocratisé de manière très importante et en fait, tous les plasticiens, tous les chirurgiens sont très habitués à faire ce genre d'opération.
Vous êtes habile, hein, vraiment sur cette intervention.
C'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien.
Et pour faire du sport, faut attendre combien de temps après ce genre d'intervention?
Alors ça aussi, ça dépend. Bon, moi, j'ai mes petits trucs, mais je trouve que quand on met par exemple une prothèse, il faut pas justement cicatriser de manière figée. Si vous cicatrisez, on laisse les patientes avec des soutiens-gorge, ne touchez pas de sport pendant deux
vous
mois.
Vous leur dites de rester en mouvement, vous.
Moi, je leur dis de rester en mouvement, de reprendre le sport au bout d'une dizaine de jours parce que le corps va intégrer l'implant.
D'accord.
Et du coup, ça donnera un résultat encore plus naturel et plus souple.
Ça existe, les rejets d'implants, là, les coques, les trucs?
Bien, les rejets d'implants, c'est exactement ça. C'est pas vraiment un rejet au sens je fais une allergie à l'implant, c'est plutôt la membrane qui entoure l'implant, qui a été laissée trop longtemps figée, parce qu'on a dit non, pas de sport, rien, hein. Et du coup, ça cicatrise figée et vous vous retrouvez avec des implants trop rigides.
Donc on bouge ses prothèses.
Voilà.
Merci beaucoup, docteur Aurène Marco, d'avoir répondu à nos questions. On a compris que quel que soit le problème, le complexe, il y a de nombreuses techniques chirurgicales possibles aujourd'hui pour que notre poitrine ne soit plus un problème, mais uniquement une fierté, on va dire, hein, c'est ça? Merci Aurène.
Merci beaucoup, docteur. Maintenant, Mélanie, il est temps de faire entrer en studio nos chroniques cœur du jour pour la partie tendance de l'émission et celui qui va ouvrir la course, ce sera le chef Abdel Alaoui avec la chronique gastronomie. Il nous propose ce midi ses astuces pour faire à la maison la meilleure raclette de l'hiver. Il nous a fait de la soupe hier, la raclette aujourd'hui, je crois que le chef Abdel a basculé dans le bien manger réconfortant de l'hiver, exactement. Ensuite, Jean-Marc Delorme qui aime aussi la raclette mais qui aime surtout nous mettre en mouvement nous propose ce matin une présentation d'une nouvelle tendance sportive, le fitness snacking. Et puis avec Elsa Lévy, on repassera dans notre assiette. Enfin, ce sont surtout les insectes qui vont y passer ce midi sur Europe 1.
Europe 1.
Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure.
Retour dans Bienfait pour vous avec Generali, l'assureur à vos côtés pour prendre soin de votre santé. Europe 1.
11h30.
Bienfait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours en direct, on vous parle de ces bons plans ou même de ces aliments qui nous font du bien. Alors justement, dans notre séquence tendance aujourd'hui, il y aura d'abord la chronique gastronomie. C'est Abdel Alaoui qui sera au fourneau pour nous. Bonjour Abdel.
Bonjour les filles, bonjour
Alors,
Jean-Marc.
Bonjour. Aujourd'hui, je dis au fourneau, mais il n'y a pas beaucoup de boulot non plus avec le plat que vous nous proposez.
On va être dans des poêlons. Vous connaissez les poêlons
pour faire
la raclette.
Ah,
voilà.
Je vous avoue, même vous n'auriez pas dit de quoi il s'agissait vu l'odeur dans
c'est
ce
vrai,
studio.
Y a un peu d'odeur, là.
On se doutait qu'il y avait de la raclette en préparation. Ensuite, ce sera à votre tour, Jean-Marc Delorme. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes notre coach sportif dans Bienfait pour vous et donc vous allez nous faire découvrir, si on ne s'est pas évanoui avant, avec l'odeur du fromage, une nouvelle tendance qui se picore elle aussi, je crois. C'est quoi?
Un concept qui vient directement des États-Unis qui est morceler les séances de sport. Ça s'appelle le fitness snacking.
Ah, pas mal. Hein, comme un petit snack par-ci, par-là. Et enfin, on va terminer ce tour de table ce midi avec vous, Elsa Lévy, bonjour.
Bonjour.
On va se mettre à table aujourd'hui en quelque sorte, enfin... Vous peut-être, moi je ne suis pas encore décidée parce que rappelez-nous ce qu'il y a à la carte chez vous.
Là ça va être des insectes, mais on va juste faire l'apéro. Donc c'est une pratique très courante à l'étranger, on va voir qu'elle arrive en France.
Ah bien, merci beaucoup Elsa, ce sera à vous de jouer dans quelques minutes, mais tout de suite on passe à la chronique gastronomie de Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Il est temps de passer à table, enfin de mettre cet appareil à chauffer qu'on est toujours très heureux de ressortir des placards chaque hiver, l'appareil à raclette. Ouais. Mélanie, vous en avez déjà fait une,
mais
vous,
non,
cette
année,
mais
j'ai hâte, ouais. J'ai hâte de m'y
Alors
mettre.
Je vais vous donner toutes les astuces pour faire une bonne raclette, les filles. Alors les journées commencent à refroidir, on a envie de manger des trucs chauds et gras, fatigué d'avoir englouti des tonnes de batavia, des pousses et des germes et des graines de chia tout l'été. On a perdu du poids et on est prêt aujourd'hui à en reprendre.
Mais oui, on assume.
C'est ça aussi, bien, les bienfaits, bien fait pour vous.
Oui, hein, bien sûr,
et bien manger. Il faut travailler son winter body. Hein,
ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je donne beaucoup de chroniques où tu prends du gras.
Dans la
poids.
Soupe hier, c'était léger. Ça va.
C'était léger. Ouais. Alors, ça rassemble, ça coule, ça pue, ça rend lourd, c'est bon, c'est chaud, c'est gras. Mais c'est tellement bon. Sortez vos plus belles machines à plusieurs poêlons individuels dans un carton plein de poussière que vous avez rangé il y a un an tout en haut de votre étagère.
C'est comme ça chez tout le monde.
Chez tout le monde, mais
c'est au-dessus du dressing, voilà, et tu le sors, il y a plein de poussière.
Voilà. On fait là, comme ça, et on récupère les poêlons. Place les amis à la raclette.
Ouais.
Alors ma mère me disait un truc très juste. Pour faire un bon régime, il faut manger le lundi raclette, le mardi raclette, le mercredi raclette. En fait, pour elle, pour faire un régime, c'était prendre du poids. Comme vous voyez un peu le résultat. Alors, déjà, avant de commencer et à réunir tout le monde autour d'une table, il faut choisir le bon fromage. Mmh. Alors oui, il y a le fromage à raclette, car c'est son nom. C'est un fromage suisse produit dans les communes du Valais. Vous le saviez, ça ?
Mais non, pas du tout.
Non,
pas du tout.
Alors, c'est produit dans les communes du Valais. C'est un fromage à pâte pressée, crue, à la tenue souple et un parfum fleuri.
C'est de la vache, hein ?
Oui, c'est de la vache. De forme ronde, facile à découper et facile à faire fondre et gratiner. Donc, parfait pour venir le verser sur une viande sèche.
J'ai tellement faim,
ou une bonne pomme de terre en robe des champs.
Alors, vous en parlez bien. Hein.
C'est vrai ?
Je la vois là devant moi.
C'est vrai,
elle
vous la
coule,
voyez,
là.
La grosse.
Ouais.
Oh là là, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on prend comme fromage ?
Voilà, soyons plus original. Bah oui. Pas besoin d'aller en pleine montagne pour se régaler. Le fromage, par exemple. Alors, vous prenez le Mont d'Or. Le Mont d'Or, il y a plus de d'onctuosité. Il y a la scarmozza. Vous connaissez la scarmozza ?
Non,
ouais, c'est
un italien,
ça. Voilà, c'est une mozzarella fumée, dure à la découpe, mais qui fond facilement. Il y a le maroilles.
Wow. Le maroilles dans la fondue, sérieux ?
Son odeur, sa force et sa douceur.
Là, on embaume l'appartement, puis les voisins, le quartier.
Ça fait partie des fromages qui n'ont pas le même goût que l'odeur.
Mauvais, hein, c'est
ouais,
c'est pas mauvais.
Et
on peut pas mettre du chèvre.
On peut mettre du chèvre. Alors, on a le gros rondin de brebis, justement, ou le chèvre cendré, pour plus de caractère. Aussi pour ceux qui sont allergiques au lait de vache.
Bah
voilà,
oui, bien
on
sûr.
Prend du chèvre. Alors, il y a le cheddar, pour cela jouer un peu English. Il y a le reblochon, pareil, ça pue, mais c'est bon. Il y a le livaro, et même un petit camembert à la truffe, comme ça, vous posez ça dessus.
C'est vrai que moi, je reste hyper classique, en fait, alors qu'on peut se lâcher. Avec
on peut se lâcher, on peut faire plein de fromages.
Et on peut se lâcher sur la charcuterie aussi.
Alors oui, il y a la charcuterie. Alors évidemment, il y a le saucisson, il y a la mortadelle, il y a la rosette, parfait. Mais soyons plus fous et surtout tendance pour être un peu différent des autres raclettes. Mmh. Hein, vous pouvez mettre autour de la table un bon pastrami par exemple. Vous allez couper comme ça en chiffonnade. Vous allez le poser sur votre assiette avec les petites pommes de terre et le fromage par-dessus. Un rôti de bœuf froid de la veille.
Mais oui.
Vous le tranchez finement, pareil. Vous allez poser dans votre assiette avec le fromage par-dessus. C'est très bon. Une bœuf vient des grisons. Qui est une charcuterie douce. Oui.
Et puis ça
et
fait
moins
pas
grasse.
Grossir.
Bon, c'est pour toutes les filles qui ont déjà fait des régimes sont
c'est
au courant.
C'est la viande des grisons, c'est moins grasse. Mais avec un fromage dessus, c'est fichu. Hein, je vous préviens.
On passe de 0 calories à 2000 tout de suite. Ou sinon, un reste de poulet rôti du dimanche, par exemple, vous allez venir les filocher et vous allez poser pareil sur votre poêlon.
En fait, on peut tout mettre dans la raclette.
On peut tout mettre. On peut même mettre un petit poisson fumé comme du saumon ou de la truite.
Ah ouais, mais j'imagine tout ça, ça a l'air génial.
Mais c'est hyper bon. Et vous allez être assez original autour de cette table. Et ce poisson fumé, au lieu de le laisser cru, enfin fumé comme on a l'habitude de le manger, vous allez juste le passer sur la partie haute, juste pour le snacker un peu, pour le faire.
Mal.
On appelle ça tataki en japonais.
Non, en fait,
bleu.
Le poêlon, c'est sans four, en fait. Il fait tout dessus.
Et dites-moi, les cornichons.
Alors oui.
C'est important aussi, les cornichons.
Ouais, après, c'est un peu trop vu, les
vous
cornichons.
Vous n'aimez pas ? C'est plus tendance ?
Si, j'aime bien.
Vous mettez des pickles.
On peut mettre des pickles, voilà. Vous faites même des petits pickles de carottes, de choux, de poivrons, pour apporter toujours cette acidité. Alors, une recette de pickles, c'est hyper simple. Vous faites, par exemple, 10 centilitres d'eau pour 10 centilitres de vinaigre pour 100 grammes de sucre. Mmh. C'est vraiment
égalité.
Et on vient plonger les légumes crus une fois que ça boue. On éteint, on laisse refroidir dans le vinaigre. On filme avec un film alimentaire et on laisse vraiment reposer pendant une demi-heure. On met ça dans les bocaux, on a pickles toute l'année.
C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Génial.
Il n'y a que ça à faire.
Okay.
Voilà. Alors, un petit piment de d'Espelette pour le côté piquant, quelques herbes fraîches, des graines de fenouil pour le côté anisé, un œuf fermier. Ah, vous mettez des petits œufs au plat comme ça sur votre
J'ai jamais fait
non,
ça, moi j'ai
plus.
C'est hyper bon.
Ouais, mais c'est plus une raclette, franchement.
Une raclette, c'est tout un art.
Je vous avais dit, ça allait être très gras.
Non, mais c'est surtout, vous avez raison, c'est à la fois votre four et votre plaque de
bah,
cuisson.
Oui, j'ai l'impression.
Ah, bah, non, mais
je crois que vous avez oublié un ingrédient, non?
Alors, le plus connu, évidemment, c'est les pommes de terre en robe des champs, cuites à l'eau. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Alors, prenez des pommes rates ou des petites pommes de terre de noirmoutier.
Mm-hmm.
Comme ça, on n'a pas besoin de les éplucher parce qu'on perd son temps à éplucher. Voilà, on la mange avec. Et on peut même mettre aussi des champignons de Paris, de la courge rôtie, une petite tombée de fenouil.
Bon, en fait, c'est poêlé, quoi. C'est plus un poêlon.
Ah, c'est très. Et est-ce qu'on peut goûter tous les fromages?
Il ouvre un restaurant avec son poêlon, quoi.
En fait, tout ce qu'il y a dans votre frigo,
vous le mettez dans le poêlé, dans le congélateur.
Une petite flambée de poulet au cognac.
Des œmerettes.
Des œmerettes. Un œuf mimosa, par exemple, hein, que vous mangez au petit-déj, vous le mettez là.
Et même le reste de soupe de potiron.
Ouais, et la saucisse knacky.
C'est magique. Et est-ce que vous pensez qu'on peut prendre du pain en plus?
Ah bah ouais,
avec
attendez, il y a différents pains. J'ai un ami qui a une boulangerie.
Et ce fromage est délicieux, on l'a pas goûté. Dites-nous rapidement parce qu'il a pas
goûté. Ça, c'est le fromage de Benoît, un ami rue Escudier, fromagerie Escudier à Boulogne. Alors, il a, regardez, ça, c'est la raclette française.
C'est incroyable ce fromage.
À l'ail des ours, raclette française, hein, on appelle ça raclette.
Vous n'avez pas un couteau pour
ça? Ça, c'est la raclette fumée. Voilà. Là, on a une raclette de brebis, justement, Julia qui aimait la chèvre
brebis,
et brebis, voilà.
Oui.
Et là, on a une raclette fumée.
Vous pourrez sentir juste.
Et tout ça, c'est des raclettes qui viennent des Alpes.
Mordez
c'est
pas
des,
de
c'est des raclettes françaises.
Je vous signale qu'il nous a passé les morceaux de fromage entiers et on n'a pas de couteau. Donc, Julia, je vous interdis de croquer. On va découper ça tout à l'heure.
On prend son portable et on découpe.
Ça sent très bon et on a hâte de goûter tout ça. Merci beaucoup, Abdel, pour les conseils, pour la dégustation. Bon, ça sera dans un instant. Pour la bonne humeur, toujours, et aussi pour cet effluve qui a déjà envahi tout le studio. Je pense que même en régie derrière la vitre, ils en profitent. Merci. Dans quelques minutes, d'autres tendances arrivent, et notamment du côté sportif avec notre coach Jean-Marc Delorme. Ce midi, il nous invite à tester le fitness snacking. Je ne crois pas qu'on y mange quoi que ce soit, mais c'est une forme de sport qui se picore, vous verrez. Et puis avec Elsa Lévy, on va continuer pour le coup la dégustation, puisqu'elle nous propose de nous initier à la cuisine à base d'insectes. Peut-être que ça donnera quelques idées à notre chef Abdel. Les insectes dans la raclette, ça doit être faisable, hein ? J'imagine, on met tout. Allez, ce sera convivial, alors restez avec nous sur Europe 1.
12h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. On est tous autour de la table, un peu en mode digestion parce qu'on a quand même goûté finalement ce fromage pendant la pause.
C'est bon ça.
C'est très très bon. Excusez-moi, j'arrive. Tous ces merveilleux fromages à raclette sont délicieux, je confirme. Alors là, je crois qu'on va vite se remettre en mouvement avec vous, Jean-Marc Delorme, hein, parce que ça va pas du tout, là. Vous êtes notre coach sportif avec nous tous les mardis. Et donc aujourd'hui, vous nous faites découvrir une nouvelle tendance sportive, le fitness snacking. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Exactement. Alors, cette tendance nous vient des États-Unis. Alors, d'habitude, ils ont plutôt tendance à nous envoyer des tonnes de bêtises. Mais là, pour le coup, ça me semblait plutôt intéressant. Alors, vous allez me dire en quoi il ne s'agit pas, bien sûr, de manger Dog Dog en faisant des abdos. Hein, ça, vous aviez compris.
Ni la raclette d'Abdel.
Ni la raclette d'Abdel. Mais bel et bien de morceler la séance de sport tout au long de la journée.
Ah.
Voilà. Et ça, j'ai voulu l'essayer moi-même ce week-end. Et il s'agit de séquencer sa petite séance de sport entre 5 minutes jusqu'à 20 minutes dans la journée et essayer d'avoir à peu près une heure, un peu plus d'une heure d'activité.
Mais combien
par
de
jour.
Fois du coup dans la journée vous y
alors,
revenez?
On peut le morceler autant qu'on veut, mais moi je l'ai essayé sur trois fois, c'est-à-dire le matin, un petit peu après la digestion et puis en fin de journée.
Vous l'avez fait trois fois, donc trois séances de sport.
Ouais.
Et c'est quoi les avantages de cette pratique?
Alors, moi, ce qui m'a plu, c'est que déjà, en ce moment, c'est le mois de novembre, c'est pas terrible.
La motivation est pas,
géniale. Mmh. Je trouve que c'est une très bonne méthode pour se mettre progressivement au sport. Voilà, parce qu'on se dit, on peut se trouver des excuses à pas y aller une heure, parce qu'on se dit, oh, j'ai pas le temps, etc. Là, c'est un petit snack, hein, c'est ça. C'est-à-dire, je goûte un petit peu, ça prend pas trop de temps, je peux le caser facilement, je me fatigue pas trop, etc. Donc ça, je trouvais ça pas mal. Ça permet aussi de limiter les blessures. Ça permet aussi de changer de discipline dans la même journée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire une heure de telle activité. Ouais. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça cultive la motivation, du coup, hein, parce qu'on sait que dans 10 minutes, on a terminé, donc ça passe quand même assez vite. Et puis, ça nous permet du coup de faire une pratique quotidienne.
Ah, bon. Par contre, il faut le faire tous les jours, le snacking.
Alors, il faut le faire tous les jours, à minima, tous les deux jours. Mais d'accord, quand on se remet au sport, c'est déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, en revanche, il y a aussi une contrepartie à ça, c'est que du coup, il faut faire quand même assez attention, c'est qu'on ne peut pas avoir des activités qui demandent un échauffement.
Oui, c'est sûr.
Parce que là, ça ne fonctionne pas. Il faut faire attention aux muscles, du coup, qui ne sont pas préparés. Et puis, donc, pas d'efforts violents.
On n'a pas trop le temps de faire monter le cœur, alors,
exactement.
Hein, c'est ça.
Donc,
on a bien
toutes les
bosser
activités
le
d'endurance, bon, c'est de facto un petit peu limité.
Et donc, vous avez testé ce week-end pour nous le fitness snacking. Comment ça s'est passé votre journée ?
Eh ben, écoutez, plutôt pas mal. Alors, j'ai fait ça ce dimanche. Alors, j'ai commencé tout simplement par des étirements. Au réveil. Dans mon lit, j'ai commencé à croiser...
Ouais. Avec l'appareil raclette à côté.
C'est ça. Donc j'ai commencé à me mettre bien droit dans mon lit. Prendre mes doigts entrelacés, comme ça, les bras vers le haut. J'ai poussé vers le haut. D'accord. Après, j'ai fait exactement la même chose avec les jambes, essayer de m'étirer, de me grandir en plus.
Vous avez vu, c'est la première fois que tout le monde vous imite, parce que c'est juste des étirements. On est tous en train de s'étirer.
Et puis après, j'ai commencé à faire cet étirement de manière diagonale, c'est-à-dire je pousse fort vers le bas avec la jambe droite et je pousse fort vers le haut avec le bras gauche.
Mais Abdel, c'est la première fois que je vous vois essayer les exercices.
C'est que le bras.
Et là, on est à combien de minutes là ?
Alors là, on est à peu près à 3-4 minutes. On peut s'arrêter. Et là, je descends de mon lit et qu'est-ce que je fais,
je t'en
profite pour faire. Alors non, du coup j'étais bien réveillé et j'en profite pour faire du gainage. Alors là,
là
je commence.
Là où ça se complique.
Je commence par 45 secondes ou une minute de gainage en planche, d'accord. J'ai fait une petite pause qui ne durera pas plus que le temps que j'ai passé à faire l'exercice. Et puis derrière, je fais des petites pyramides, c'est-à-dire que je commence à monter les fessiers vers le haut et puis je reprends la position initiale, d'accord. Et puis je termine par des rentrées de genoux, toujours en position de planche, vers l'intérieur pour travailler mes obliques. Voilà. Je répète ça deux fois.
D'accord. Et là, vous êtes à 10 minutes.
Moins de 10 minutes.
D'accord. Et début d'après-midi, on fait quoi alors ?
Début d'après-midi, j'attends quand même que la digestion se fasse. Hein. Je ne fais pas le
Vous êtes sportif, mais vous déjeunez
On déjeune quand même. Et puis là, je commence à travailler ma ceinture scapulaire, c'est-à-dire le niveau des bras. Je fais des petites rotations vers l'arrière. Vous savez, je vous en avais parlé qu'on a fait un sujet bras. Vers l'avant, d'accord, sur 15-20 rotations. Et puis après, je stabilise à l'horizontale. Et puis, je viens sur ma chaise de bureau, parce que j'étais quand même en train de travailler sur l'ordinateur, faire quelques dips, d'accord. Donc, deux séries de 12, par exemple, où je place les mains sur le côté de la chaise et je descends pour travailler mes triceps. D'accord. Ça, c'est fait. Je passe la journée, fin de journée j'en ai marre, j'ai envie de
prendre
de sortir
un peu,
petit peu, de prendre l'air. Et là, je vais courir entre 10 et à 20 minutes.
Ah bah 45 minutes au total sur la journée en trois fois.
Exactement.
Très rapidement, est-ce que ça fonctionne ?
Oui, ça fonctionne parce qu'on a une étude de l'université américaine de McMaster qui a donc clairement vu que des gens qui faisaient, donc ça peut être des montées d'escalier, hein, j'ai pris d'autres exemples, donc par intermittence dans la journée, avaient exactement le même gain qu'une séance d'entraînement
sur
d'intensité...
Sur le plan cardiovasculaire,
sur,
hein, en plus.
Sur le plan cardiovasculaire, qu'une séance d'entraînement d'intensité modérée un peu plus longue. Voilà. Donc ça fonctionne vraiment. Je valide et je trouve ça vraiment pas mal.
C'est une belle façon de consommer le sport. Et en plus, si on le fait tous les deux jours, c'est bien, Adèle.
Après, vous pouvez varier, mettre des exercices de yoga, etc. C'est vraiment open et je trouve ça vraiment sympa pour ça.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Moi, je suis séduite en tout cas.
On commence demain.
Ouais, on commence. De toute façon, sport, gastronomie, conseil beauté. Moi, j'aime découvrir les nouvelles choses, tester de nouveaux trucs. Donc, merci pour cette mise en lumière. À présent, ça va être à vous de jouer, Elsa Lévy. Je ne sais pas si vous êtes sportive, mais en tout cas, vous êtes un peu aventurière, vu ce que vous allez vouloir nous mettre dans nos assiettes.
Oui, voilà. Alors après tout ça, cette chronique n'a pas pour but de vous donner le cafard ni le bourdon, mais de vous réconcilier avec les insectes.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi.
Et oui, il faut les aimer aussi, mais cette fois dans l'assiette. Il s'agirait même de la nourriture du futur, et d'un futur plutôt très proche. En effet, selon l'ONU, les insectes sont la solution pour nourrir les 10 milliards d'êtres humains que nous serons en 2050. Une information majeure qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Après, j'arrête les jeux de mots. Alors déjà, soyons clairs, il ne s'agit pas de faire une croix sur les raclettes ou la gastronomie et de réduire
notre... On comptait pas arrêter de toute façon pour l'instant.
Voilà, ni réduire notre alimentation à des poêlées de limaces et de vers de terre. L'idée, c'est plutôt d'intégrer la protéine d'insectes à notre alimentation
alimentation que pour des raisons nutritionnelles et environnementales. En réalité, les insectes sont déjà consommés par des millions d'individus dans le monde. Cette tendance nommée l'entomophagie existe en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. La pratique y est même totalement banale. Il semble désormais logique de la démocratiser en Occident où l'impact écologique est le plus important en termes de nourriture. La Belgique, l'Angleterre et les Pays-Bas s'y sont mis depuis plusieurs années et depuis le printemps dernier, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour la Nourriture et l'Agriculture, a décidé de pousser l'Europe à remettre les insectes sur le marché. Vous pouvez d'ailleurs commencer à en voir dans les rayons de pas mal de commerces. Il existe 1900 espèces d'insectes comestibles à travers le monde, les plus couramment consommés étant les coléoptères, donc les coccinelles ou les scarabées, mais aussi les chenilles, les abeilles, les guêpes, sauterelles, fourmis, cigales, grillons et même les punaises. Mélanie et Julia, je suis sûre que
moi,
vous
salivez. Moi, je suis jamais à l'aventure, mais les punaises, quand même, je vais laisser de côté. Ouais, en quoi c'est la nourriture du futur, Elsa ?
Alors, en fait, déjà, c'est la nourriture du passé, puisque nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs glanaient davantage d'insectes qu'ils ne chassaient de mammouths. Mais cette habitude s'est perdue essentiellement avec l'arrivée de l'agriculture, où les insectes ont même été responsables de ravager certaines cultures comme les criquets, par exemple, qui ont longtemps été perçus d'un mauvais œil. Mais depuis vendredi dernier, la Commission européenne a justement autorisé la mise sur le marché des criquets migrateurs en ouvrant ainsi un nouveau pan de ce marché en pleine expansion. Et il serait dommage de s'en priver car les insectes regorgeraient de qualités nutritionnelles hors normes. Toujours selon la FAO, ils sont riches en vitamines, fibres et minéraux. Et à quantité égale, les insectes contiendraient deux fois plus de protéines que le bœuf. Mais surtout, la transformation de ces insectes n'entraînerait pas de déchets. Ce serait même une alternative soucieuse de l'environnement puisque leurs élevages semblent requérir 15 fois moins de nourriture que l'élevage bovin, 5 fois moins d'eau, 10 fois moins de terres agricoles et dégageraient 6 fois moins de CO2. Voilà, de quoi faire mouche.
Ouais, vous aviez dit que vous arrêtez avec les jeux de mots. Le problème, c'est surtout
en fait
que l'idée, ça nous dégoûte, on va le dire franchement.
Oui, voilà, le véritable défi se trouve dans le travail à faire pour changer les mentalités. Pourtant, sans le savoir, nous consommons déjà des centaines de grammes d'insectes via les colorants alimentaires, par exemple comme la cochenille. Alors, j'ai discuté avec Clément Cellier, cofondateur de la société française Diminis, qui distribue de la nourriture à base d'insectes dans toute l'Europe.
Les insectes comestibles vont prendre plusieurs années avant de se banaliser dans nos assiettes, mais ça finira par arriver. On prend souvent l'exemple des sushis et du poisson cru, qui, eux, ont mis plus de 20 ans en France avant de devenir un grand classique de la restauration. Donc pourquoi pas les insectes ?
Et donc, voilà, vous nous faites passer
d'où l'idée
insectes,
de cette gamme que je vous passais de produits pour l'apéro, puisque l'apéro est un moment de convivialité propice pour
molitor.
Se laisser tenter.
Moi, je pense
molitor et grillon. Grillon, fruits rouges.
Ça sent surtout l'oignon, je trouve.
Bah, c'est ail et fines herbes, voilà. Car il faut savoir que les insectes n'ont pas vraiment de saveur, mais leur texture est intéressante, souvent croustillante. Mais petite info, si vous êtes allergique aux crustacés, il ne faut pas en manger, parce que c'est la même famille. Ça y est,
j'aurais pu le dire avant.
Alors, pour nous éduquer à la consommation d'insectes, Clément organise des ateliers d'éveil ludiques auprès des jeunes publics, dans des écoles ou encore à la Cité des Sciences.
Nous avons constaté que chez les enfants, la barrière culturelle et psychologique est moins présente. D'ailleurs, plus ils sont jeunes, plus c'est le cas, puisqu'on forme son goût à partir de 6 ans. Et par conséquent, les enfants vont plutôt se concentrer sur la texture et le goût de l'insecte et l'apprécier davantage que les adultes.
Voilà, et l'entreprise développe également des barres protéinées, des céréales pour le petit déjeuner, ce que je vous ai fait passer, le granola.
Mais c'est quoi ? Il y a quoi comme insecte là-dedans ? J'ai l'impression que c'est un granola.
C'est de la poudre d'insecte, en fait. Et cette poudre ne remplace pas le blé. Par exemple, pour les pâtes à base de poudre d'insecte, elle va enrichir le blé de protéines. On bénéficie ainsi d'une portion de protéines sans ajouter de viande. Sinon, il y a aussi les insect steaks, des galettes qui remplacent le steak haché. Bref, vous pouvez trouver tout ça en épicerie fine, chez Nature et Découverte, dans certaines salles de sport, ou tout simplement sur leur site jiminis.com.
Écoutez, c'était pas mauvais. Merci beaucoup, Elsa, pour cette chronique. On dirait des chips, moi, je trouve. Je suis pas certaine de me convertir tout de suite à ça, mais peut-être dans 30 ans, quand j'aurai fini tout ce fromage à raclette, je ne mangerai plus que ça. Merci beaucoup. À tous les trois, bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve évidemment demain à 11h. Et Julia, demain, que mettrons-nous sur la table ?
Alors demain, dans Bien fait pour vous, on va s'intéresser plus en détail à la paternité. Est-ce que l'instinct paternel existe vraiment ? Comment bien accompagner la maman pendant la grossesse ? On va vous donner tous nos bons conseils pour devenir un papa poule, mais pas trop quand même. Juste comme il faut pour être au moins un papa moderne, un papa 2021-2022. Alors soyez au rendez-vous.
D'ici demain, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques si vous en avez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.